Chapitre 10. Des moyens d'avoir un bon domestique. Un éclair de joie illumina les yeux de l'hindou prisonnier. Ruskaert lui-même, quoiqu'il eût protesté qu'il ne le connaissait pas, parut content de sa délivrance. Tout à coup, un incident nouveau changea la décision de Corcoran. Le petit moustache arrivait, tenant à sa gueule une lettre cachetée à la mode européenne. Ces sortes de lettres sont rares à Bhagavapur, de sorte que le Maharaja fut étonné. Il prit la lettre, caressa la moustache, regarda l'adresse, reconnut une écriture anglaise et lut avec étonnement ces mots. « À Lord Henry Braddock, gouverneur général de l'Hindoustan. » Eh bien, seigneur Maharaja, que vous disais-je ? S'écria Sugriva. Ce papier a dû être jeté derrière un buisson de la route au moment où Louison arrêtait cet homme, et Moustache, qui suivait sa mère, l'a ramassé en jouant. Voilà qui est étrange ! S'écria Corcoran. Il regarda la signature, Doubleface, alias Ruskaert, et le docteur, qui avait reconnu sa lettre, réfléchit un instant. Et commença sa lecture. C'était la lettre dont nous avons donné plus haut le texte. Pendant cette lecture, Doubleface pâlissait à vue d'œil. Et quand elle fut terminée, Corcoran dit « Mettez-lui les fers aux pieds et aux mains, jetez-le dans le premier cachot venu, pour le reste qu'il attende. »« Que faut-il faire du messager ?» demanda Sugriva. « C'est toi qui es ce fameux Baber dont il parle ?» demanda Corcoran.
« Eh bien oui, seigneur !» répondit effrontément le prisonnier. « Je suis Baber. Mais souvenez-vous que le lion généreux ne doit pas écraser la fourmi parce qu'elle l'a piquée au talon. Si vous daignez me faire grâce, je puis vous servir. »«
C'est bien, » dit Corcoran. « Tu peux trahir encore 2 ou 3 mètres, n'est-ce pas ? Je m'en souviendrai. » On emmena les 2 prisonniers et Corcoran rentra tout pensif dans le palais. « Eh bien ?» demanda Quaterken. « Quel est donc ce grand événement qui t'a fait sortir le pistolet au poing ?»« Ce n'est rien, » dit Corcoran, qui ne voulait pas inquiéter les 2 femmes. « Une fausse alerte, donnée par une sentinelle ivre d'opium. »« Mais toi, » continua-t-il, « d'où te vient cet ami, Akajou, dont tu ne nous avais pas encore parlé, que je viens d'apercevoir tout à l'heure ?»«
C'est la fin de mon histoire, » répondit Quaterken. « J'allais vous l'expliquer lorsque le coup de fusil nous a interrompus. Vous vous souvenez du naufrage dont Alice et moi... Nous avions été témoins. Ce naufrage nous parut un avis du ciel, qu'il ne fallait pas négliger. Nous jetâmes l'ancre dans l'île. Je dégonflai mon ballon, je le mis à l'abri sous un châtaignier énorme, et nous nous avançâmes vers la plage, où le vaisseau naufragé était couché sur le flanc, comme une baleine échouée. Tout l'équipage avait péri, mais nous trouvâmes une grande quantité de provisions de toute espèce, si soigneusement enfermées dans des caisses, que l'eau de mer n'avait pas pu les gâter, et 500 barriques de vin de Bordeaux. À cette vue, je ne doutais plus que la Providence ne nous invita à planter notre tente dans l'île, et, avec le consentement d'Alice, qui eut la modestie de ne pas vouloir lui donner son propre nom, je la baptisai l'île Quaterken. Par un rare bonheur, non seulement la cargaison qui nous tombait du ciel était la plus précieuse que nous puissions désirer, mais encore, il nous était impossible d'en retrouver le propriétaire, car la mer avait emporté le bordage, sur lequel était écrit le nom du vaisseau et tous les papiers du bord. J'étais donc occupé à faire l'inventaire de notre trésor, lorsque j'entendis tout à coup Alice pousser un cri de surprise, et une voix d'homme lui dire gravement en anglais « Comment vous portez-vous, madame ?» Jamais on ne fut plus étonné. Je me retourne, je vois un homme d'âge mûr, fait, taillé, sculpté, habillé, rasé, comme un ministre protestant, et suivi d'une femme, encore belle, mais d'âge assorti au sien, habillée avec le soin le plus scrupuleux à la mode de 1840. Derrière eux venaient, par rang de taille, 9 enfants de 15 à 3 ans, 6 filles et 3 garçons. C'était toute la population de l'île. À parler franchement, je ne fus pas très heureux de la rencontre. Comment ? J'avais fait le tour du monde pour trouver une île inaccessible. J'y entre, et du premier coup, j'y rencontre 11 Anglais, grands et petits. Vraiment, c'était joué de malheur. Alice riait de mes aventures. Au fond, elle n'était pas fâchée de voir des compatriotes. Monsieur, dis-je à l'anglais, par quel chemin êtes-vous arrivé ici ?
Par la mer, nous avons fait naufrage, ma chère Cécilie et moi, le 15 juin 1840, 6 mois après que Dieu m'eût fait la grâce de m'accorder sa main en légitime mariage. Nous étions venus dans l'Océanie pour évangéliser les sauvages des îles Viti. J'avais même un chargement de Bible à cette intention, mais notre vaisseau, le Star of Sea, se perdit dans le gouffre que vous voyez. Nous échappâmes seuls à la mort, Cécilie et moi. Heureusement, nous n'avons pas perdu courage. Nous avons défriché 200 ou 300 acres de terre. Nous avons bâti une maison à laquelle j'ajoute un pavillon tous les 2 ans, lorsque par la bénédiction du Très-Haut, je vois ma famille s'augmenter d'un nouveau rejeton. Enfin, si je pouvais donner des maris à mes filles, des épouses à mes fils, je n'envierais rien aux plus fortunés et patriarches. Mais vous, êtes-vous seul échappé au naufrage ?
Nous sommes venus par le chemin des airs, répondit Alice. Et elle expliqua qui nous étions et ce que nous cherchions. Le ministre se jeta à genoux avec toute sa famille en remerciant le ciel.
Mais nous allons repartir, lui dis-je. Je veux que mon île soit déserte.
C'est bien ainsi que je l'entends, répliqua l'anglais. Combien estimez-vous mon île à peu près ? Je ne veux pas l'acheter, gardez-la, je pars.
Au nom de Dieu, s'écria-t-il, prenez-la pour rien si vous voulez, mais emmenez-nous hors d'ici. Cécilie, qui n'a pas pris une tasse de thé depuis 20 ans, ne veut pas rester une minute de plus.
Sa proposition me convenait à merveille.
Voyons, lui dis-je, 100 000 francs et ça c'est pour votre île.
100 000 francs, s'écria-t-il. Ah, monsieur, que toutes les bénédictions du ciel vous accompagnent. Quand partons-nous ?
Laissez-moi le temps de visiter ma nouvelle propriété. Nous partirons demain. Je vous déposerai à Singapour.
Il me tarde, dit l'anglais, de lire le Times et le Morning Post.
Oh, s'écria Cécilie, et nous aurons du thé et des sandwichs.
À la pensée de goûter cette félicité, les 6 jeunes Anglaises et les 3 petits Anglais se léchèrent voluptueusement les lèvres.
« Je serais heureux, dit le père, que vous veuilliez bien accepter pour ce soir notre modeste hospitalité. »
En même temps, il nous montra le chemin. Sa maison, qui se composait d'un simple rez-de-chaussée commodément distribué, était fort grande et flanquée de plusieurs pavillons irréguliers, mais propres et d'un aspect agréable. À première vue, je reconnus que je n'avais pas fait une mauvaise affaire. Le dîner fut très bon et très varié. Le vin, surtout, était exquis, car la mer, en jetant sur les bords de l'île des épaves de tous les naufrages, se chargeait de garnir la cave du révérend missionnaire. La conversation fut joyeuse et animée. Nos hôtes se réjouissaient de quitter l'île, et moi je me réjouissais encore davantage de m'y établir.
Alice raconta au révérend les nouvelles du monde entier, depuis 20 ans.
Sa gracieuse majesté Victoria vit-elle encore, demanda-t-il, et sa grâce l'immortel duc de Wellington, et Sir Robert Peel, le baronnet, et le vicomte Palmerston, les Winks sont-ils au pouvoir, ou les Tories, etc.
Enfin, les questions cessèrent et nous allâmes nous coucher. Dès le lendemain, j'emmenai toute la famille à Singapour, et tout couvert de leurs bénédictions, je les déposai sur le quai avec un bon 100 000 francs, payable chez messieurs Kramers, Bernus and Company. Quelques jours après, le révérend Smithson, suivi de ses 9 petits Smithson et de sa femme, partit pour évangéliser une tribu de papous que les voyageurs venaient de signaler dans la terre de Van Diemen. La promptitude avec laquelle le révérend Smithson m'avait concédé son île, dont il était pourtant seul propriétaire, n'ayant à payer d'impôts ni pour le gouvernement, ni pour l'administration, ni pour les bureaux, ni pour l'armée, ni pour la police, ni pour la gendarmerie, ni pour le gaz, ni pour l'entretien des routes, ni pour le pavage des rues, ni pour quelque objet que ce fût, utile, inutile ou nuisible, cette promptitude, dis-je, me suggéra quelques réflexions. Que manquait-il à ce brave homme ? N'avait-il pas à satiété le boire et le manger ? Un climat très doux, une terre fertile, une sécurité parfaite, une liberté sans limite et une famille bien portante qui s'accroissait sans fin et sans mesure ? Ne pouvait-il pas jouer au cricket dans la journée et au whist après le coucher du soleil ? Évidemment, ce qui le chassait de mon île, c'était l'ennui de ne voir autour de lui que des petits Smithson, de n'entendre que les discours de Madame Smithson et de n'avoir pas l'ombre d'un voisin qui l'eût pu aimer ou haïr. En un mot, il subissait le supplice de ce grand prince trop continuellement obéi, qui disait à son premier ministre « Contredis-moi donc une fois si tu peux, afin que nous soyons deux. » D'autre part, ma chère Alice, qui est une excellente musicienne, pleine d'esprit, de grâce, de bonté, de piété, n'a pas le moindre talent pour faire la cuisine. Comme elle a reçu
plus d'un million en dot, elle a toujours cru que les beefsteaks naissaient tout cuits. Ne dis pas non, ma chère, c'est l'éducation qu'on donne aux plus charmantes filles de France, et Dieu sait où cela les mène. D'où il suit que j'avais besoin de quelqu'un pour la servir. C'est alors qu'il me vint une idée dont vous admirerez certainement la profondeur. Prendre à mon service et transporter dans mon île des domestiques ordinaires était chose impossible. Personne n'aurait voulu s'enfermer là, à la condition de n'en sortir qu'avec ma permission. J'avais besoin d'une famille assez persécutée pour que cette réclusion lui parût un bienfait, et assez honnête pour ne pas oublier le bienfaiteur. C'est parmi les condamnés à mort que je cherchais le phénix dont j'avais besoin. En moyenne, on peut compter que le bourreau abat légalement environ 500 têtes par jour sur toute la surface du globe. Il y a du plus ou du moins selon les jours, mais enfin, c'est la moyenne. Naturellement, ceux qu'on pend, qu'on roue, qu'on écartèle, qu'on empale, qu'on met à la broche, sont compris dans ce chiffre. Mais non pas ceux qu'on tue à coups de fusil sur le champ de bataille, au son des tambours et des trompettes, en criant « Vive le roi !» ou « Vive l'archiduc !» Or, de 500 pauvres diables, vous m'accorderez bien qu'un dixième au moins n'a rien fait pour mériter la corde, le pal ou la guillotine. C'est même bien peu si l'on considère que la justice française est la seule qui, de son propre aveu, ne se trompe jamais. Il s'agissait donc de mettre la main sur un de ces 50 innocents et de lui sauver la vie. Je remontai en ballon avec ma chère Alice et nous recommençâmes notre voyage de circumnavigation autour du globe. « Mais, » dit Quaterkem en s'interrompant, « si vous voulez savoir le reste de l'histoire, faites venir Acajou. » Le nègre ne tarda pas à paraître, et sur l'invitation de Quaterkem, continua en ces termes. « Moi, nègre, fils de nègre, grand-père roi du Congo, père enlevé par les blancs et fouetté, ce qui fait pousser le coton et le café. Moi, Acajou, bon nègre, né au bayou de La Fourche, en Louisiane, content de vivre, poisson salé pendant la semaine, petit salé le dimanche, coup de fouet trois fois par mois. Moi, rire du fouet, avoir bon dos, peau dure, patience, et danser la bamboula tous les soirs, dans la belle maison. À 16 ans, moi très content, voir Nini, aimer Nini, porter la hotte de Nini, le seau de Nini, le balai de Nini, obtenir la permission de balayer la maison pour Nini. Moi, danser tout seul avec Nini. Chercher querelle à mes amis pour Nini. Boxer pour Nini. Avoir l'œil poché pour Nini. Prendre du sucre et du café dans le buffet pour Nini. En l'absence des maîtres. Danser sur la tête et les mains pour amuser Nini. Et demander à Dieu de m'accorder Nini. De son côté, Nini coquette. Nini dire à moi que je l'ennuie. Nini rire avec Sambo, vanter Sambo, bambouler avec Sambo, accepter le collier de Sambo, moi très en colère, offrir belle robe à Nini et Nini abandonner Sambo. Moi demander Nini en mariage et obtenir. Mariage fait, moi très heureux. Nini petite femme à moi, Nini caresser le menton d'Acajou, aimer Acajou, faire le bonheur d'Acajou. Moi remercier bon Dieu et faire la nique à Sambo. Sambo, lui, très sombre, rien dire, penser beaucoup, préparer trahison, dénoncer Acajou au maître, faire fouetter Acajou trois fois par semaine. Peau d'Acajou, tigré comme peau de zèbre, Acajou, accusé de tout, cheval boiteux, Acajou, chien de chasse perdu, Acajou, argenterie volée, encore Acajou et toujours Acajou. Grand malheur. Maître assassiné dans un bois, près de sa maison. Qui a fait le coup? Sambo accusé Acajou. Acajou, bon nègre, pas savant, ne pas savoir se défendre. Blanc arrivé par troupes, 200 ou 300, à cheval, revolver à la ceinture. Écoutez Sambo. Croire Sambo. Appeler le juge Lynch. Saisir Acajou. Lier les pieds, les mains. Apprêter corde avec nœud coulant et engager Acajou à plaider sa cause. Acajou, bon nègre, plus bête que méchant, rien dire. Être condamné à mort. Avoir grand peine, pleurer beaucoup,
implorez, bon Dieu, pensez à Nini qui nourrit petit enfant d'acajou. Embrassez Nini, dire adieu à toute la terre. Maudire perfide Sambo. Réciter dernière prière et s'apprêter à faire quick quick, pendu par le cou et remuant les jambes. Tout à coup, entendre crier au feu, au feu. Blanc se disperser pour voir ce que c'est. Et l'ange du bon Dieu, Massa Quaterkem, descendre du ciel, couper lien, faire monter Acajou en ballon, et rire du juge Lynch. À 500 pieds en l'air, pas plus de feu que sur la main. Blanc revenir furieux, voir la corde d'Acajou coupée, tirer des coups de fusil sur le ballon. Acajou rire de tout son cœur. Acajou sauver Massa Quaterkem revenir la nuit suivante pour emmener Nini et Zozo, l'enfant de Nini. Acajou baiser les pieds de Massa Quaterkem et offrir de le suivre au bout du monde. Nini suivre Acajou et Zozo suivre Nini. Massa Quaterkem alors transporter Acajou, Nini et Zozo dans son île. Acajou très content. Travailler, bêcher, labourer la terre, panser les petits poneys de Massa Quaterkem. Nini faire la cuisine, bonne cuisine. Nini très friande. Zozo tremper ses petits doigts dans la sauce et barbouiller ses joues de confiture. Nini très contente. Appeler Zozo polisson et admirer Zozo. Acajou et Nini travaillaient 3 ou 4 heures par jour, pas davantage. Jamais fouetter. Massa Quaterkem emmenait Acajou dans ses voyages. Acajou gardait ballon. Acajou donnait sa vie pour Massa Quaterkem.